Alors, voilà. Bonjour pour cette nouvelle table ronde consacrée à un sujet un petit peu sulfureux, nous dirons. L'Uchronie, tentation révisionniste, point d'interrogation. Donc, autour de moi, un ensemble d'auteurs, des romanciers tout d'abord, Fabien Clavel, donc auteur de La Cité de Satan, Roland C. Wagner pour Rêve de gloire, Norman Spinrad, dont nous parlerons principalement de son roman Rêve de fer, et enfin deux dessinateurs, Jess pour Jour J, Vive l'Empereur, et Monsieur Fab, Mr. Fab, pour Jour J toujours, L'imagination au pouvoir, point d'interrogation. Tout d'abord, pour lancer les hostilités, est-ce que vous pourriez en deux, trois mots à peine présenter votre vision de l'Uchronie ?
Ça va être dur de pas dire des banalités. Donc c'est un jeu avec l'histoire en partant d'un point de modification d'événements et qui se joue après à plus ou moins long terme. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas grand chose à rajouter.
Pour moi, l'Uchronie est de la pure fiction spéculative, au même titre que la science-fiction, ou en tout cas une bonne partie de la science-fiction. La seule différence, c'est que dans la science-fiction, on essaye de spéculer sur ce que va être l'avenir, et dans l'Uchronie, on essaye de spéculer sur ce qu'aurait été l'histoire si un ou plusieurs événements du passé avaient été différents.
En anglais, en Uchronie, c'est nom une réalité alternative. Et c'est ça, quand j'écris le printemps russe, ce n'est pas en Uchronie. Et avant, c'est le même mois de publication aux États-Unis, c'était le chute de l'Union soviétique, et commence à être en Uchronie. Rêve de fer, c'est un double Uchronie d'allemand. Avec la science-fiction, même 1984 de Orwell, maintenant, c'est une Uchronie, oui. Mais à Uchronie, c'est une réalité alternative, un passé alternative ou un présent alternative fait par un autre événement dans le passé.
Pour moi, en tant que dessinateur, l'Uchronie, c'est le moyen de créer des univers en mélangeant des éléments historiques et des éléments de science-fiction, et donc de s'amuser avec ça.
Pareil.
Vous vous attaquez dans vos œuvres peut-être aux heures les moins glorieuses de notre histoire. On va avoir le conflit algérien revisité, on a la Seconde Guerre mondiale revisitée, une version particulière de 1968 et de ses échos. Donc une première question qui sera volontairement polémique. Y a-t-il des dangers à s'attaquer à l'histoire, la tentation de la réécrire ?
Moi, personnellement, je ressens, de mon point de vue en tant qu'écrivain, aucun danger, ce que je veux dire, parce que pour moi, c'est clair, cette histoire n'a pas eu lieu, c'est une histoire purement fictive. Par contre, le danger est dans la tête, disons, des crétins, qui sont de deux catégories. D'une part, les gens qui sont réellement révisionnistes ou négationnistes et qui donc sont enchantés par des histoires où les nazis gagnent la guerre ou même par des histoires où Hitler devient auteur de science-fiction. Et l'autre catégorie, c'est les gens qui sont prêts à croire à peu près à tout et n'importe quoi, le genre de gens qui croyaient que Lovecraft était un initié et qui sont prêts à croire qu'il y a de l'histoire secrète, occulte et ésotérique dans les Uchronies. Alors, oui, il peut en avoir, mais jamais l'auteur n'y croit, parce que si l'auteur commence à croire à son univers uchronique, c'est plus une Uchronie. Là, effectivement, on tombe dans quelque chose qu'on n'appellera peut-être pas du révisionnisme, mais qui, en tout cas, est une croyance de la part de l'auteur Et ça, c'est super dangereux, effectivement. Mais ça peut être valable aussi pour les gens qui écrivent de la science-fiction située dans l'avenir et qui à un moment se prennent pour des prophètes. Et bon, on veut dire, on n'est pas des prophètes. Et quand on écrit des uchronies, c'est des univers purement fictifs. Ça, c'est évident, quoi. Voilà.
Ah, c'est compliqué. C'est deux formes d'effet, je crois, de possible dans une uchronie comme ça. Un, c'est pas dangereux. C'est, à mon avis, c'est une chose qu'on rêve de faire. C'est une uchronie, mais avec un monde qui est un cauchemar. Un cauchemar de le Troisième Reich. Même, vous avez l'autre possibilité d'une uchronie. C'est une uchronie qui fait une nostalgie pour une histoire qui n'existe pas. Si le sud aux États-Unis ont gagné la guerre civile, vous avez peut-être l'esclave existe encore. Nostalgie pour un passé qui n'existe pas. Un passé qui évoquait en nostalgie et le futur pour une piste qui n'arrive pas, une mauvaise piste, une piste raciste, une piste phallocratique, plus phallocratique, ou trop féministe, ou choses comme ça, qui l'Empire romain avec tout ça, avec... existe maintenant, en fait, était un Star Trek comme ça. Ça, c'est un danger, une uchronie qui évoque une nostalgie pour une piste qui n'arrive pas, mais c'est une piste qui était en présente, en futur, raciste, naziste, interiste, whatever. Ça c'est le deux côtés de l'utopie. Et un, c'est qu'on rêve de faire, à mon avis, une vaccination contre un mauvais futur. Mais un autre côté, c'est la possibilité de nostalgie. Tout le monde aux États-Unis, tout le critique, en tous les pays, c'est non, ça c'est contre le nazisme. Sauf le parti nazi américain qui dit oh, c'est un bon roman avec les fans, c'est très bien, mais il renaît tout ça avec sa After with the Home and Whipple. Sans ça, c'est très bien, c'est héroïque, c'est ça. Ça, c'est les possibilités. Ça, c'est les deux possibilités, à mon avis.
C'était quoi la question déjà?
Ben, peut-être une question, enfin reformuler la question, mais qui intéressera plus les graphistes. Quand vous revisitez l'histoire, mais donc les couleurs des années 70 ou les couleurs d'une Europe napoléonienne vieillissante, quels sont les codes que vous voulez réactiver, ou est-ce que c'est le travail de recherche que vous utilisez?
Énormément le travail de recherche historique, quoi. Parce que ça permet d'être crédible dans ce qu'on veut véhiculer. Après, les images peuvent être récupérées par n'importe qui, notamment les crétins dont parlait M. Wagner, mais ça nous échappe, en fait. C'est pas... L'Uchronie ne véhicule pas de message révisionniste à la base, je pense pas.
Parce que dans l'imagination au pouvoir, nous sommes donc dans une France post-68arde où De Gaulle est mort. On tue beaucoup de Gaulle à cette table. Donc De Gaulle est mort.
Il y en a qui méritent.
Il y a deux tartes à la crème dans les uchronies. C'est les nazis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale et Napoléon gagne la bataille de Waterloo et toutes les variations possibles. Mais il est très clair que si on veut s'attaquer à quelque chose de plus récent que la Deuxième Guerre mondiale, et si on le fait selon un point de vue français, la cible principale, c'est évidemment le général. C'est une figure historique unique. La tentation est trop grande, quoi. Là, c'est pas une tentation révisionniste, là, mais c'est justement, il a quand même, De Gaulle est quand même quelqu'un qui a échappé à 17 attentats. Il faut se dire ça. C'est statistiquement, il aurait dû être mort depuis longtemps en 62. C'est trop tentant. C'est comme Kennedy. C'est comme jouer sur l'assassinat de Kennedy et faire que Kennedy s'en tire ou ce genre de choses. C'est super excitant. En plus, le général est un personnage absolument extraordinaire, qui a laissé plein de traces, qui a eu plein de commentaires et tout. D'ailleurs, moi, depuis que j'ai écrit Rêve de gloire, je lève mon verre à la santé du général, parce que, bon, je veux dire, je l'ai assassiné, quoi.
Donc, oui, pour revenir à ton travail, la représentation graphique d'une France qui n'existe pas, mais qui est l'héritière d'une France qui aurait pu naître... le travail de recherche, ça a été un travail de retrouver des architectes, des idées visuelles.
Ouais, tout à fait. Là, en l'occurrence, on a décidé de faire un mélange. Enfin, j'ai fait un mélange de choses existantes et de choses qui ont été imaginées par des architectes, mais qui en fait n'ont jamais été sélectionnées pour être construites. Et on s'est dit, bon, et pourquoi pas? Donc voilà, on l'a fait en dessin.
Mais alors, quand on s'attaque à l'Empire napoléonien, est-ce que ça devient plus confortable parce qu'il y a une distance supérieure et qu'on peut prendre de plus grandes libertés ?
Ben, oui et non. Je pense pas qu'on... Enfin, il y a un attachement de nombre de personnes pour l'Empire napoléonien et Napoléon en général. Et puis le but était justement de rendre crédible le scénario par une construction plutôt réaliste de ce que aurait pu être un empire tel qu'il est développé là, vieillissant. Donc avec... mais, On n'a pas une connaissance suffisante de ce début de siècle, nous, par rapport aux photos, où on peut dire ça c'est fin 19e, ça c'est début 20e. Mais enfin, pour dire, là on est en 1925 et ça ressemble plus à la France de 1910, c'est-à-dire que les choses se sont ralenties progressivement, comme... les mouvements sociaux n'existent pas puisque c'est une chape de plomb, un empire. Donc les mouvements artistiques sont bridés. Les anarchistes n'existent pas, ou alors c'est vraiment des tout petits clans. Ça parle entre soi. Non, l'intérêt c'était justement de faire comme si un espèce d'empire déliquescent, mais napoléonien. Ça c'est jouissif.
Fabien, donc ton uchronie, c'était l'Empire romain qui persistait dans le temps et qui n'a jamais cessé. Bon, on ne pourra pas te reprocher une démarche révisionniste par rapport à la relecture de l'histoire, tellement ta démarche est extrême. Donc justement... histoire d'attaquer la deuxième partie de notre entretien, comment est-ce que tu considères le travail que tu as mené? C'était plus un travail d'historien, d'ancien étudiant de lettres qui se fait plaisir, avec un contenu supplémentaire?
En fait, avant de répondre à cette question, je voulais revenir juste sur la question qui a été posée tout à l'heure sur justement la tentation révisionniste. Je pense que cette idée, elle part aussi d'une ambiguïté du terme uchronie, sachant que ça a été formé donc sur utopie. Et le mot utopie, donc formé par Thomas More, donc c'est topos, le lieu, et avec la racine u qui vient de ou en grec, une racine négative. Et on oublie que dans certains manuscrits, Thomas More a donné une autre étymologie avec utopie, c'est-à-dire le lieu agréable. Et le lieu agréable, comme dans euphonie, euphémisme, etc. Ce qui fait qu'au départ, c'est un lieu idéal, et quand l'utopie devient désastreuse, ça devient de la dystopie. Or, on parle jamais de dyschronie. Ça veut dire qu'on a oublié au départ que... l'uchronie pouvait être d'abord un lieu agréable, c'est-à-dire quelque chose d'orienté politiquement, pour présenter sans doute un meilleur présent, ce qu'on aurait espéré. Et donc peut-être qu'il manque encore le mot dyschronie pour qu'on arrive à faire la part des choses entre quelque chose qui est positif et quelque chose qui est négatif. Par exemple, Rêve de Fer pourrait être baptisé dyschronie, par exemple. Alors moi, dans ce que j'ai fait, pour revenir donc à la deuxième question, ce que j'ai fait dans la Cité de Satan, en fait, c'était d'opérer un renversement. Moi, j'avais envie d'écrire un péplum, et je me suis aperçu que la plupart des péplums tels qu'ils sont présentés dans les romans ou dans les films, souvent à l'américaine d'ailleurs, parce que je ne parle pas des péplums italiens qui partent vraiment souvent dans le fantastique et dans... Enfin, ce n'est pas vraiment la partie qui m'intéressait. On s'aperçoit que la plupart du temps, le sujet qui est traité, c'est l'arrivée du christianisme et de montrer que la croyance était justement déliquescente et heureusement que le christianisme est arrivé pour sauver tout le monde.
Quo vadis.
Voilà, Quo vadis. Et alors justement, moi j'ai conçu la Cité de Satan comme un anti-Quo vadis. Et donc pour ça, il me fallait un renversement, c'est-à-dire de faire des chrétiens non pas une minorité montante, mais une minorité plutôt déclinante. Et donc mon point de divergence, ça a été un personnage que j'ai beaucoup aimé, notamment grâce à la biographie de Lucien Gerfagnon, qui est Julien l'Apostat. Fin du IVe siècle, qui est un personnage extraordinaire, qui est élevé dans la religion chrétienne, au moment où l'Empire est déjà devenu chrétien. Il devient empereur un peu par hasard, parce que sa famille a été massacrée au moment de la dernière succession. Son frère se fait tuer aussi, après avoir été nommé César, etc. Enfin, c'est très compliqué. Il se retrouve proclamé d'ailleurs en Gaule Auguste, donc le chef. Il arrive à prendre le pouvoir, et il se fait tuer au bout de 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il a tenté de remettre en place le paganisme. Et moi, j'ai imaginé qu'il avait vécu très longtemps, que l'attentat contre lui, encore une histoire d'attentat, avait échoué et qu'il a vécu 100 ans et qu'en fait, après les 1500 ans de sa naissance ou de sa mort. Et donc que les chrétiens se retrouvent à être une espèce de minorité extrémiste, terroriste, qui essaye de se faire entendre parce que, évidemment, ses conditions de vie sont désastreuses. Voilà. Donc c'était ce renversement qui m'avait intéressé. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, ce renversement commence à... Je ne dis pas que c'est à cause de moi, hein, ce serait un petit peu une vantardise de ma part, mais un péplum comme le titre m'échappe, comment il s'appelle, le dernier péplum d'Alexandro Amenébar, qui s'appelle Agora. Agora suit exactement ce type de pensée, où c'est l'Empire devenu chrétien, où vous avez Hypatie, qui est une philosophe femme, qui découvre... que la Terre tourne autour du Soleil et qui va être assassiné par des chrétiens intégristes. Et pour la première fois dans un péplum, on a renversé le principe. C'est d'ailleurs assez extrême parce que les chrétiens sont représentés comme des barbus hirsutes, habillés tout en noir, filmés de très haut, comme des espèces de colonies d'araignées, mais de fourmis. Ils sont complètement effrayants. Mais même si le propos est extrême, c'est dans cette lignée que je me place.
Alors, Norman, pour vous présenter brièvement Rêve de Fer, je vous rappelle qu'il s'agit d'un livre comme une poupée russe, donc qui a plusieurs couches. Rêve de Fer, c'est un roman écrit par Adolf Hitler qui a émigré aux États-Unis où il a travaillé comme graphiste en faisant des couvertures de romans de science-fiction. Et qui a écrit Le Seigneur de la Svastika. Rêve de Fer est suivi d'une postface d'un universitaire qui décrypte l'intégralité du texte. C'est un classique, enfin c'est considéré comme un classique du roman uchronique. Pourtant c'est un roman qui a eu des problèmes, notamment des problèmes de réception critique.
Well, j'essaie ça en anglais maintenant. Rape the Fair is sort of a uchrony of a second kind because it's a uchrony inside a uchrony. It's a uchrony of Hitler becomes a science fiction writer instead of, and there's no Third Reich and there's no World War II, and then he proceeds to write his own uchrony, which is a wish fulfillment dream of Nazi Germany, which never happened. Among other things, this required me to channel Adolf Hitler because I was writing as Hitler in Hitler's style, which was atrocious, terrible. So I had to read everything he had ever written to get the style, and then I had to write very badly for most of the book. It was a horrible experience. I hated the book for a long time, and then I got all these good reviews and won prizes and stuff, and I realized what I hated was the act of writing the book. That's number one. So the research to do the historical stuff was easier than for most Uchronies because it was in an imaginary future imagined by Hitler, and it was his fantasy. So in terms of accuracy, it wasn't that much of a problem. But stylistically, it was very, very difficult and extremely unpleasant if you've ever tried deliberately to write badly for an entire book. And it was horrible. And to write horrible stuff designed not to make people want this, but to be glad it didn't happen. That's easy. In Germany, what happened was, after the war, the Americans, the British, the French, kind of imposed a constitution on West Germany with a clause that forbade anything, any work of art, a book, a painting, clothing, music, that would tend to interest people in a positive way towards Nazism, whatever on earth that means. So when the book finally got published in Germany, it was put on the index. Now, the index doesn't mean that you can't buy the book exactly. It means that the bookstores can't put it on the shelves. It can't be advertised. It can't be put in the window, but you can buy it under the table like pornography. So, in fact, it went through a couple of printings while it was on the index. But the publisher, Heine Verlag, was really strong about this, and Wolfgang Jeschke, the editor in particular, and Hans Alpers, who was also involved in the production of a professor, and Monsieur Heine Lumem, Wilhelm Heine, because there was a Wilhelm Heine, it was a personal publication, they fought this case for 8 years through the German legal system until it came to the Supreme Court. And my German is not very good, but I read all this legal stuff in German. And the gist of it was, nobody who was testifying against the book said it was a pro-Nazi book. There were two things that were said. One was that the Marxists disliked the book because it was a psychosexual explanation of the Third Reich and not economic determinism. So they were against the book for that reason. The other thing that they all said was, well, I, of course, understand that this is a Nazi, you know, anti-Nazi book, but people who are not as smart as I am won't get it. And that was what it was all about. It was never taken as a pro-Nazi book in Germany. It was published in Germany, publishing all the countries of the Axis, Germany, Italy, Japan, Spain, so forth. It was never taken the wrong way. But the people who are against it in Germany said, well, I'm smart enough, but these young people are too stupid to understand that this is an anti-Nazi book, which is one of the reasons that I wrote it, was because a lot of science fiction, well, not science fiction, but fantasy had, as far as I'm concerned, the same kind of sublimated psychosexual appeal as the Nazi gear and the whole thing. So it was an inoculation against that. So that's what that was all about. Eventually, we won in the highest court in Germany after 8 years, and it was never banned anywhere else.
Justement, Roland, Tu as écrit une préface pour ce livre qui n'était pas présente dans les premières éditions françaises et que l'on t'a demandé d'écrire. Bon, ben, pourquoi ?
Ben, l'explication part du fait qu'il y a eu, il y a une quinzaine d'années, un article, je crois que c'était dans l'Express, qui parlait de la science-fiction révisionniste et qui citait dans les titres révisionnistes Rêve de fer et Le Maître du Haut-Château, qui, selon l'auteur de l'article, donnait une image positive du nazisme. Et ces livres étaient censés être vendus dans les librairies d'extrême droite, et on entendait même dire que les libraires d'extrême droite conseillaient, pour Rêve de fer, de ne pas lire la postface. Une postface qui constitue une mise en abîme supplémentaire. Donc, quand on m'a demandé de faire cette préface, j'étais un peu embêté parce que, je veux dire, moi, pour moi, il n'y avait pas photo, c'était clair, mais effectivement, maybe some people not so smarter than we are. Effectivement, surtout si on leur fournit l'explication, quoi. Donc, j'ai fini par faire par faire une préface en. Comment je veux dire, en expliquant que pour moi ce livre était un vaccin contre le nazisme. Que après, moi mon père il était dans l'armée nazie, dans l'armée allemande pendant la guerre parce qu'il est né en Allemagne, hein, c'est pas de sa faute. Donc je veux dire, il a jamais été nazi, mais il volait à bord dans une Junker 52 avec une belle croix gammée sur l'empennage et tout ça. Donc je suis un peu sensibilisé à ce genre de truc. Et moi, pour moi, c'était très clair que après avoir le rêve de faire, mais je me sens quelque part. C'est un livre qui, je parle purement du Seigneur du Svastika. C'est vraiment un livre qui a suscité, je vais avoir 13 ou 14 ans, ça a vraiment suscité un énorme malaise en moi. Mais après l'avoir lu, je me suis senti quelque part comme libéré. Parce que. Enfin, merci Norman, quoi. C'est un livre, ça m'a fait du bien de le lire, quoi. Ça m'a permis de régler des choses par rapport à mon histoire familiale, par rapport à mes convictions politiques. Et disons que. Moi, je pense que c'est un livre qu'il faudrait étudier dans les écoles. Voilà. Les profs, peut-être pas d'histoire, mais de littérature en terminale, devraient faire étudier ça et faire plancher les élèves, justement, sur le thème de la conférence. Ce livre est-il un livre révisionniste ?
Actuellement, il y a du De Gaulle au programme des terminales littéraires.
Oui, je sais, ma fille est en terminale littéraire et franchement, les mémoires de De Gaulle, elle trouve ça méga super chiant, quoi. Mais je lui dis, t'inquiète pas, le général, je l'ai assassiné, c'est bon.
Justement, tu évoquais le terme, et là, une question pour vous tous. Dans quelle mesure est-ce que vous estimez que l'approche de l'utopie, l'apsus intéressant de l'Uchronie, est une démarche politique ?
Ben c'est clairement une démarche politique, mais tout comme la science-fiction est une démarche politique. Enfin, je veux dire, ce sont des genres littéraires où s'il n'y a pas un minimum de pensée politique chez l'auteur, comment est-ce qu'on peut avoir un discours sur la société, avoir un discours sur l'histoire, avoir un discours sur le monde si on n'a pas un minimum d'approche politique ? Mais après, ça peut être fait de manière plus ou moins fine, plus ou moins rigolote et caricaturale. Pour moi, c'est. Je fais partie des gens qui pensent que la littérature est fondamentalement politique. Et que les gens qui te parlent de beauté, d'esthétique, de ceci, de cela, en fait, sont tous des petits fachos qui, justement, veulent nier la nature profondément politique de la littérature. Bon, peut-être que la grande littérature est moins politique que la littérature de genre. C'est vrai que les auteurs, avant qu'il y ait Les Misérables, il y a eu Les Mystères de Paris, par exemple. C'est vrai que les thématiques sociales ont été prises plutôt par les auteurs populaires au départ et que la grande littérature s'en est emparée par la suite. Je pense d'ailleurs aussi que la littérature de genre est beaucoup plus à même de traiter les sujets réellement politiques pour tout un tas de raisons. Hein. Je veux dire que ça aussi bien que ça soit dans le roman noir que dans la science-fiction, ou même la fantasy, d'ailleurs il peut y avoir de l'excellente fantasy politique. On a un discours sur le monde, on a un discours politique, la vie de la cité, la vie de la société, la vie des gens. Quoi. Alors évidemment, par exemple, si on prend la science-fiction ou certaines uchronies un peu anciennes, c'est beaucoup moins visible. Parce que dans la science-fiction publiée aux États-Unis, par exemple dans les années 50, quand Frédéric Pohl, qui était rédacteur en chef de Galaxy, si je me rappelle bien, à partir d'un moment, les Pohl, Kornbluth et quelques-uns des futurians étaient des gens qui ont été proches du marxisme sur la fin des années 30, qui vivaient d'ailleurs en une espèce de communauté. Enfin bon, mais on ne pouvait pas avoir un discours politique marxiste dans la science-fiction des années 50 aux États-Unis. C'était totalement impossible, en pleine période de chasse aux sorcières et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y avait un enrobage et une dissimulation de la dimension politique. Et certaines personnes, une partie du lectorat n'a pas bien supporté le moment où la politique est devenue apparente dans le genre. Et je crois que pour l'Uchronie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, justement, si le discours devient trop apparemment politique, il y a des lecteurs à qui ça pose un problème, parce que pour eux, justement, on ne doit pas. C'est pas ça. Ils ne veulent pas qu'on leur... Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à se faire traiter de militants, alors qu'on s'est contenté d'énoncer quelques évidences bien simples. À savoir que les néo-nazis sont tous des enfoirés, et tout ça, bon... Bon, j'ai promis de ne pas dire de gros mots, alors je m'arrête.
Donc,
ne me laissez pas tout seul.
Ben non, mais c'est que tu as parlé pendant 20 minutes. Quand on aborde l'Uchronie, est-ce qu'on se donne des limites supplémentaires par rapport à une fiction traditionnelle ? Est-ce que par rapport au traitement de personnages ayant réellement existé ? Par rapport au dessin d'un individu vivant. Peut-être que les autres vont répondre d'abord et tu prendras la parole.
Non, parce que ça va être très bref. Pour mon Uchronie, j'ai été confronté à un problème très simple, c'est que ça traite d'une période récente et donc une partie des gens, et notamment des salauds, sont toujours en vie. Et il y avait des risques qu'on ne pouvait pas prendre. Ou alors, ce que je pouvais faire, c'était mettre des faux noms et puis à chaque réédition, chaque fois que quelqu'un était mort, mettre le vrai nom à la place. En fait, ce que j'ai décidé, c'est de mettre le moins de noms possible et de mettre le moins de personnages historiques possible. Bon, je veux dire, assassiner De Gaulle à la Croix de Bernie, ça mange pas de pain, quoi. Mais je me suis totalement interdit toute référence à la politique contemporaine, hein, aussi, évidemment. Mais surtout, utiliser les limites que je me suis posées, c'est de mettre le moins de noms propres possible, que les gens soient morts ou vivants. Parce que même s'ils sont morts, ils ont quand... C'est beaucoup plus difficile que pour la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, on sait qui c'est, les salauds. Là, en fonction de ce que tu... Si tu es européen ou fils d'Européen d'Algérie, si tu es français métropolitain, si tu es arabe pro-FLN, si tu es harki, tu n'as pas la même vision de la guerre. La guerre d'Algérie, l'histoire, elle n'est pas écrite. Alors que la Deuxième Guerre mondiale, c'est super facile. Donc la limite, c'était justement ça. Parce que quand on veut faire un livre qui s'adresse à tout le monde, eh ben, bon... C'est sûr que quand on fait une uchronie sur la Deuxième Guerre mondiale, sauf exception, on n'écrit pas un livre qui s'adresse aux nazis.
Moi, ça va être rapide aussi, effectivement, puisque au moment où se passe mon uchronie, les gens concernés par le changement temporel sont morts depuis 1500 ans. Donc j'ai pu botter en touche comme ça, donc j'ai pas eu de problème d'actualité. La seule chose, c'était effectivement Julien. Et comme j'ai lu une excellente biographie qui faisait le tour du personnage, je ne pense pas l'avoir trahi. Et je suis resté vraiment dans ce qu'il aurait pu faire et ses convictions religieuses et politiques.
I shouldn't say this, but I will. C'est le bouquin de Harry Turtledove, de l'alternative Deuxième Guerre, existe en version française? Non. Well. Aux États-Unis, Harry Turtledove est le plus fameux, le maître de la Uchronie, et c'est une série très longue de une alternative Deuxième Guerre mondiale. Des extraterrestres arrivent, les nazis et les Américains en lutte ensemble contre les extraterrestres et tout ça. Ah, c'est beaucoup, je ne sais pas combien. 6, 7, 8 romans comme ça. Et pour moi, en effet, ça, c'est une espèce de pornographie politique. Et c'est une trivialisation de la différence dans les nazis et les États-Unis et l'anglais et français. Mais c'est plus important contre des extraterrestres. Et c'est un Deuxième guerre mondiale qui évoluait ou dévoluait dans une guerre dans l'espèce humaine, même le nazi, contre l'extraterrestre. Et ça, une chose comme ça, À mon avis, ça c'est dangereux. Ça c'est un espèce de pornographie. Mais autre chose, à la livre de Roland, je crois, Roland a fait une chose qui n'a jamais été faite en avance. Il a changé beaucoup de points d'inflexion de l'histoire. De Gaulle est mort, mais Kennedy est vivant, et Lavrentiy Beria était le chef d'État de l'Union soviétique. C'est un vrai contest avec des Américains et des Soviets pour gagner la première pile à la Lune. Tellement compliqué, tellement fou. Historie de rock and roll et tout ça, un mélange de la vraie chose et les choses qu'il a inventées. Et ça, c'est une autre forme, à mon avis, de Uchronie. C'est la Uchronie de la troisième, de troisième ordre, ou choses comme ça. Et je ne loue pas ça, mais ça m'intéresse bien parce que c'est la même équipe qui ont fait combien? 7? 8? C'est fini? 7. Et ça, c'est fini.
Pour l'instant.
Qui a fait que c'est différent, 7 différents Uchronies à 7 différents points. Et ça, ça m'intéresse. C'est une bonne idée, ça. C'est politique et c'est pas politique. C'est un analysis. En effet, mais pas avec je ne le pas encore, mais pas avec un but politique consistant avec tout.
Si je peux parler un tout petit peu pour eux, ce sont deux scénaristes à travailler de concert, plus Fred Blanchard qui est le directeur de collection. Ils sont passionnés d'histoire et je crois qu'ils ont une maîtrise d'histoire tous les deux scénaristes. Et en fait, leur jeu, c'est de se dire, en fait, c'est des délires d'adolescents. C'est-à-dire quand on est adolescent, qu'on discute entre soi ou on refait le monde. Même quand on aime l'histoire, on refait l'histoire. Et je pense qu'ils sont partis de principes comme ça pour se dire, ah bah tiens, si on prenait tel moment et qu'on changeait, si on mettait le mur de Berlin au milieu de Paris après la guerre de 40... etc. Donc, je pense que it's a joke à la base. It's a joke intellectuel et historique. Et voilà, ça se développe. Politique, je pense que de toute façon, à partir du moment où on touche à l'histoire, c'est automatiquement politique. Mais après, de quel côté, à mon avis, ça y navigue. C'est pas le propos de premier dans les jours J.
Non, je dis pas de politique dans le sens polémique ou théologique ou comme ça. C'est un politique analytique, un politique avec un bout de vue neutral, le sens moral, le sens politique, politicien ou comme ça.
C'est le if the story was different at this time. Et c'est ce qui en fait l'intérêt. Si je peux me permettre, l'Uchronie, c'est pas du. Je pense pas qu'il y a du révisionnisme, mais c'est comme la science-fiction fait penser l'avenir autrement à ceux qui la lisent. C'est-à-dire, ça ouvre des possibilités de réflexion et de l'esprit. L'Uchronie, c'est la même chose. C'est de pouvoir. Et justement, ça ouvre la porte à ce qui n'est pas écrit dans les livres d'histoire et qui pourtant peut être de l'histoire. Toutes les négations qui ont pu être faites quand on voit comment s'est construit l'URSS et comment le passé a été au fur et à mesure remanié, c'est intéressant justement de se replonger par des uchronies sur des événements pour les éclairer d'une autre manière et apporter une réflexion différente sur ce qu'on en a fait dans les livres d'histoire.
Mais pour moi, c'est très intéressant, c'est une autre uchronie, un méta-uchronie, avec cette future ou présent différent, fait par cette autre point de flexion, autre moment de change. C'était un roman, un ancien roman, what the hell is it called? Replay. Who wrote that? Vous avez le nom? Et ça, c'est un mec qui était trappé dans une situation. Il fait, rien ne marche pas. Il y a le deuxième essai de take two. Ça ne marche pas. Take three. On ne marche pas encore. Encore, encore, encore. Et c'est une espèce, à le même moment de quelques Uchronies comme ça. Mais ici, c'est dans la vie d'un homme. Et vous avez un méta-Uchronie dans quelques bouts historiques qui n'est influencé par l'autre livre, l'autre tranche. Et ça, c'est très intéressant pour moi. Vous, comme le set, comme un travail d'art.
Et juste, monsieur, pour monsieur Fab, comment est-ce qu'on dessine François Mitterrand, comment est-ce qu'on dessine Jacques Chirac, sachant qu'ils ont été tellement dessinés, caricaturés, représentés, et comment est-ce qu'on peut encore les aborder de nos jours pour les insérer dans un projet uchronique, sans les caricaturer, en les caricaturant un peu?
J'allais dire comme on peut, mais en fait, non, je voulais que ça soit réaliste le plus possible. Donc, même si, en fait, celui-là, c'est le plus politique de tous les livres, je pense, de la série, parce qu'il y a un côté satirique avec tous les hommes politiques qui défilent à chaque page. Je voulais que ça soit un peu comme une toile de fond, parce qu'en fait, l'histoire, à la base, c'est une histoire policière, avec une histoire, avec un casse, et des règlements de compte entre personnes qui ont organisé le casse, etc. Mais effectivement, les hommes politiques sont très importants parce qu'ils font partie de l'univers qu'on a essayé de créer dans le cadre de cette uchronie. Donc moi, je voulais qu'ils soient ressemblants tant que possible, juste avec des petits changements. Je fais les cheveux un peu plus longs à Chirac ou des rouflaquettes à Mitterrand, des petits détails.
Voilà, pour les insérer dans le monde de la fiction. Dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait dire que l'Uchronie est révisionniste, mais qu'elle n'est pas négationniste? Ou alors que c'est une fiction révisionniste? Mais en prenant le sens de révision au sens le plus large possible, de relecture, de retour. Hein, c'est pas le sens restreint.
De toute façon, à partir du moment, l'écriture de l'histoire est toujours une réécriture, c'est-à-dire on passe derrière les historiens qui ont déjà écrit l'histoire et on la révise. Je crois que c'est Pierre Vidal-Naquet qui dit que justement toute histoire devrait être révisionniste, dans le sens où on corrige les approximations, les grossissements qui ont pu avoir lieu avant. Donc effectivement, si on veut être clair, l'histoire est révisionniste par essence, mais elle n'est pas négationniste. Voilà.
Bon, je vais répondre à côté, comme d'habitude. Quand j'ai fait mon bouquin, j'avais présent à l'esprit ce qui s'était passé avec Rêve de fer. Et j'ai quand même pris énormément de précautions pour que le livre, c'est jamais possible, mais pour que le livre ne puisse pas être récupéré par les mauvaises personnes. Enfin, ce que moi, je considère comme les mauvaises personnes. Donc je pense avoir fait à peu près le nécessaire. J'espère que ça va marcher et que je ne retrouverai pas un jour ce bouquin conseillé dans des librairies néo-nazies ou d'anciens de l'OAS, va savoir. Maintenant, oui, effectivement, lorsqu'on fait une uchronie, on révise peut-être l'histoire, mais fondamentalement, mon livre est un livre sur l'impossibilité d'écrire l'histoire de la guerre d'Algérie. Et d'une manière plus générale, l'impossibilité d'écrire une histoire absolue, objective, vu que chacun sait que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. La guerre d'Algérie, il n'y a pas eu de vainqueur, pas réellement. Tout le monde a perdu dans l'histoire, finalement. Quand on regarde 50 ans après, tout le monde a perdu. Donc, il n'y a pas d'histoire, vu qu'il n'y a pas eu de vainqueur. Et j'ajouterais que je suis un très grand fan de Howard Zinn, qui a quand même écrit une histoire des perdants, de l'Amérique vue par les yeux des perdants. Et moi, je trouve que ça, c'est une démarche révisionniste positive, parce que justement, on sort de l'histoire des vainqueurs pour entrer dans l'histoire des gens.
Mais aussi, c'est un niveau tellement littéraire et mystique, métaphysique, psychologique de l'Uchronie pour pourquoi est la Uchronie, on parle de la SF, de la science-fiction. C'est pas de science, c'est pas nécessaire le futur, mais à mon avis, une idée théorique, une idée mystique centrale de beaucoup de science-fiction est la multiplexité de la réalité. Le maître de cette forme de littérature était Philip K. Dick, qui a aussi écrit en Uchronie, The Man in the Hunk, le guerre de le haut château. Mais autre chose aussi, avec la même idée, c'est une idée très compliquée, mais que la réalité n'existe pas. Une multiplexité de réalité existant, et le Uchronie ipso facto est une forme littéraire pour faire l'explication de le même concept comme la science-fiction visionnaire d'un Philip Dick ou d'un certain aspect de Frank Herbert en Dune. Et peut-être moi aussi, et une autre manière de ça, cette réalité de alternative de la présente en Paris, et même en un certain aspect, le roman de Roland Wagner. Aussi, j'ai demandé de faire 6 petites histoires pour un livre de photos de Paris vide. Même photo, même illustration, même photo de Paris vide, très génial. Et l'idée, je écris 6 explications différentes pour la même chose. Pour le même présent. Et ça, c'est une chose, en essence, spéculative, fiction, en le sens littéraire et un peu métaphysical et peut-être théological, théorique. Hein. Et ça, c'est la raison pour moi que tout ça, qui sont différents, mais reste avec justice dans la même clé, le même genre, je déteste cette montre aussi, la même sorte de fiction littéraire.
Pour terminer, je me tourne vers vous si par hasard vous avez une question à poser.
Alors bonjour messieurs, merci pour tout ça. C'était très intéressant. C'est une question à Roland sur Rêve de gloire. Rassure-toi, ça ne sera pas sur Chouchen. Tu as dit que tu n'étais pas révisionniste et que les Uchronies ne le sont pas. Pourtant, est-ce qu'elle n'amène pas à réviser son jugement sur certains personnages ? Sa part, on l'a beaucoup dit du fait que tu as tué De Gaulle. Est-ce que ton sentiment sur De Gaulle n'a pas changé après avoir écrit le livre ? Parce que la conclusion, c'est que le PDG arrive, le président dictateur général, à la place de De Gaulle. Et une chape de plomb de 20 ans sur la France.
Il n'y a pas que De Gaulle dans l'histoire. Il ne faut pas oublier que, donc, comme Norman l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas Khrouchtchev qui a remplacé Staline, c'est Beria. Et lorsqu'il y a Budapest en 1956, au lieu d'envoyer les chars, Beria envoie une bombe nucléaire qui foire. Je pense... Et donc la Hongrie rejoint le bloc de l'Ouest à ce moment-là. Je pense que ça joue un rôle à peu près aussi important que la mort de De Gaulle. Oui, effectivement, si De Gaulle n'était pas arrivé, si De Gaulle n'était pas arrivé, s'était pas pointé en 58, d'une manière ou d'une autre, on aurait eu au moins sur une partie du territoire les fachos au pouvoir. Ça, c'est très clair. Ou les fachos, ou en tout cas une. Faut pas oublier qu'il y avait un comité de salut public à Alger, qu'il y avait un comité de salut public en Corse, et qui commençait à préparer les paras à sauter sur Paris quand même, hein, quand le général est sorti de sa retraite. Je veux dire, il nous a fait changer de république, mais il l'a sauvé. Bon, après, voilà. Mais je pense que le contexte international est lui aussi très important. Une autre chose, c'est que le coup d'État, donc, qui en 73 amène le président dictateur général au pouvoir en France, ce coup d'État, bon, qui ressemble beaucoup à celui du Chili de Pinochet, il y a même les Chicago Boys qui se pointent, enfin c'est la totale, c'est pareil, il a été initié parce que les communistes sont le premier parti de France et ont la majorité à l'Assemblée nationale suite aux élections qui se passent à ce moment-là, et donc pour que la France ne devienne pas un pays socialiste, ils font le coup d'État, mais... Il y a aussi le contexte international qui fait qu'à partir de 69, l'URSS cesse de financer le tiers-monde et les guérillas et les rébellions du tiers-monde comme elle l'a fait dans notre monde pour mettre tout le pognon. Parce que comme ils se sont fait niquer dans la course à la Lune, eh ben, là, ils partent sur Mars pour montrer que c'est eux qui ont la plus grosse, quoi, quand même. Voilà.
Nous avons juste le temps pour une dernière question.
Comme tu disais justement, Roland, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et donc, moi, je suis aussi un fan de M. Zine. Mais je me posais effectivement la question si ce n'est pas de l'Uchronie et pas justement la possibilité de voir ce qu'auraient pu faire les perdants, les perdants de notre histoire. Hein, mais un petit peu de voir quelles possibilités, quel monde, magnifique ou non, c'est un peu ce qu'a essayé de faire Norman avec le printemps russe, mais si justement effectivement c'est pas se donner la possibilité politique de voir quel système, quelle manière de fonctionner, mais aussi quelle culture y aurait pu se passer.
Je répondrai très très brièvement sur l'aspect culturel. Une chose dont on n'a pas vraiment conscience sur la fin de la guerre d'Algérie, c'est que c'est aussi la fin d'un peuple. La fin des Européens d'Algérie qu'on a surnommé les Pieds Noirs. À partir du moment où le territoire sur lequel la culture s'est développée a disparu, enfin, les gens ne vivent plus sur ce territoire, à partir du moment où ils sont tous complètement déracinés, où ils sont éclatés partout en métropole, le peuple est de toute manière condamné à disparaître, parce que c'est le lot des peuples, des civilisations, d'être mortel. L'une des petites expérimentations auxquelles je me suis amusé, c'est vrai que peut-être émotionnellement, je me suis pas mal investi là-dedans, vu que je suis né à Alger, c'était ça, justement, c'est-à-dire le peuple pied noir continue à exister et se développe, et en plus, et ça parce que moi, je vois comment fonctionnent les associations de pieds noirs, que ce soit des affreux fachos ou des gens qui veulent simplement entretenir une mémoire et ne sont pas sont à gauche ou ce genre de choses. Ils sont quand même, la société pied noir, le peuple pied noir, c'est un peu comme les Aztèques ou les Incas, quoi. C'est à un moment on arrive et puis on tranche. Et ce qu'on en garde, c'est ce qu'elle était au moment où elle a été arrêtée. Et moi, j'ai voulu voir ce que ça donnait, d'une part si elle continuait, et d'autre part si de nouveaux apports arrivaient, d'où la venue d'énormément de gens du nord de l'Europe, en essayant d'enrichir cette société. Et c'est vrai que c'est quand même une uchronie culturelle. Ça répond à ta question ?
Bien. Il est temps de nous séparer. Alors, messieurs, merci à tous.